Je vous rappelle que Jésus a terminé sa vie sur une croix. Donc, il suffisait pas d'être au temps de Jésus pour bien comprendre. Alors, on se dit, bon, ben, quand même, les premiers temps de l'Église, ça devait être formidable. Sans problème. Juste après la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte, voilà, ça devait être formidable, la première Église. Si seulement on avait vécu il y a à peu près 2000 ans, au temps de la première Église, on aurait vu ce que c'était qu'une Église parfaite. Et il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres pour se dire que si on pense cela, eh bien on se trompe. Parce qu'il ne faut pas idéaliser la vie de la première Église. Loin de là. Ça n'est pas une Église parfaite, pas plus qu'aujourd'hui ou que demain. C'est une Église qui a connu aussi ses difficultés, ses divisions, ses tensions, ses injustices en son sein, même parfois. Et ce qu'on peut entendre aujourd'hui encore, parfois, ici ou ailleurs, on ne s'occupe pas de nous, les responsables ne font pas leur boulot, l'Église ne répond pas aux besoins de tous. Ben, vous savez, ça, on l'entendait déjà dans les tout premiers temps de l'Église. La preuve, le texte qui nous est proposé pour ce matin, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, les versets 1 à 7. C'est une des trois lectures qui nous est proposée pour ce matin. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les gens de langue grecque se mirent à maugréer contre les gens de langue hébraïque, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Ce qui est passionnant dans le livre des Actes des Apôtres, c'est de voir les premiers temps de la vie de l'Église, mais de le voir sous un angle tout à fait réaliste. Un tableau vivant de la première Église. Un tableau dans lequel on ne cache pas les faiblesses, les difficultés, les tensions qu'ont connues aussi la première Église. On ne nous dresse pas un tableau idéal d'une Église où tout était rose et tout était formidable, où il n'y avait aucune difficulté, aucune tension, aucun problème. Parce que ça n'était pas la réalité des choses. On nous parle de l'Église de Jésus-Christ, oui, de ses premiers temps. On nous parle aussi de choses formidables qui se passaient, de miracles qui étaient accomplis par les mains des apôtres, d'un témoignage puissant qui se répandait à Jérusalem et au-delà. Mais on ne nous cache pas aussi les tensions, les difficultés. Le texte qui nous intéresse ce matin évoque ces difficultés, les murmures qu'il y avait dans la communauté, mais il nous montre aussi comment les responsables, et en l'occurrence les 12, ont fait preuve de sagesse dans la façon de gérer cette difficulté, de gérer ces tensions qui étaient nées dans l'Église. Il est intéressant de voir ce que les apôtres ont fait, la façon dont ils se sont pris pour finalement arriver à résoudre le problème, à désamorcer la bombe qui était là, prête à exploser dans l'Église. Et s'il y a une chose en particulier que l'on peut constater dans ce récit, dans cet épisode, c'est qu'il a fallu que chacun y mette du sien pour que l'Église continue sa route. Chacun a joué sa part dans cet épisode. Les premiers à avoir pris l'initiative de faire quelque chose, de trouver une solution au problème, c'est bien sûr les 12, les apôtres. Les apôtres qui, jusque-là, on se rend compte quand on lit les premiers chapitres, visiblement, ils géraient tout dans l'Église, jusque-là. Non seulement la dimension spirituelle, mais aussi le côté pratique. On nous dit que la communauté de Jérusalem vendait leurs biens et puis les mettait en commun pour aider, souvenir aux besoins de ceux qui étaient dans le besoin, dans la difficulté. Et les chapitres précédents, le chapitre 4 en particulier, nous montrent que les gens vendaient leurs biens et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu aux pieds des apôtres. Ce qui veut dire que c'était les apôtres qui, dans un premier temps, géraient la redistribution. Donc, tâche éminemment pratique que les apôtres remplissaient, en plus de leur tâche d'enseignant, de leur tâche de dirigeant de cette communauté, ils faisaient tout. Ils étaient, d'une certaine façon, les responsables exclusifs de la communauté de Jérusalem. Or, ce qui se passe, c'est que le Seigneur agit et fait grandir l'Église. Et parce que l'Église grandit, qu'ils deviennent de plus en plus nombreux, il devient de plus en plus difficile de gérer l'ensemble, et même quasiment impossible de gérer tous les domaines de la vie d'une Église qui grandit de la sorte. Et quand la gestion devient difficile, quand le nombre augmente, nécessairement, des insatisfactions commencent à naître. Des gens se sentent délaissés, oubliés. On a l'impression que d'autres sont pris en compte et que d'autres ne le sont pas. Et puis on commence à regarder chez l'autre et il peut y avoir des jalousies ou un sentiment que tout le monde n'est pas pris en compte dans l'Église, dans la communauté. Et puis vous savez, c'est quelque chose qui part comme ça, comme une rumeur, comme quelque chose qui va pas très bien, et puis ça enfle, et puis ça gonfle, jusqu'au risque peut-être de faire éclater la marmite. Les chrétiens de l'Église de Jérusalem étaient tous à l'origine d'origine juive. Mais il y avait les juifs de langue grecque, les hellénistes, qui étaient issus de la diaspora, qui étaient un peu répartis dans tout l'Empire romain, et qui donc parlaient la langue grecque habituellement, et puis les juifs de langue hébraïque, qui étaient peut-être plus spécifiquement ceux qui étaient restés dans la terre. Et ce qui veut dire qu'il y avait, même si c'était tous des chrétiens d'origine juive, eh bien, une différence, comme déjà deux communautés qui n'arrivaient pas toujours à bien s'entendre au sein de l'Église. Et ça, quand les choses ne vont pas très bien dans l'Église, c'est, on pourrait appeler ça presque des communautarismes, refont surface. Et des identités différentes font qu'il y a des tensions qui existent. Et puis alors, ces murmures qui ont commencé à naître dans l'Église traduisaient en réalité une critique à peine voilée contre les responsables. On s'occupe pas de nous. On s'occupe d'eux à côté, mais pas de nous. Mais que font les responsables? Est-ce qu'ils ne devraient pas faire quelque chose? Alors, c'était des murmures, on ne le disait pas trop fort, pour que ça ne s'entende pas. Enfin, pas trop doucement non plus, parce qu'il fallait quand même que d'une manière ou d'une autre, ça remonte jusqu'aux responsables, et qu'ils l'entendent un petit peu, ces récriminations. Et les 12 l'ont entendu. Ils ont perçu, ils ont compris qu'il y avait là une bombe potentielle à désamorcer. Ils ont pris la mesure du danger qui guettait l'Église et ils ont posé un diagnostic juste. Le diagnostic, c'était de dire, en effet, aujourd'hui, à cause de la réalité nouvelle de cette Église qui grandit, nous ne pouvons plus tout faire. On ne peut pas gérer tous les domaines de l'Église, nous les 12, parce que sinon, on va négliger ce qui est essentiel pour nous, ce pourquoi le Seigneur nous a appelés premièrement, la prière, l'annonce de la parole. On va le négliger. À force de tout faire, on ne va plus rien faire, ou on va faire les choses à moitié. Et c'est le diagnostic juste que posent les 12 pour pouvoir régler le problème. Ça signifie pas, de leur point de vue, que le service au table, entre guillemets, soit moins important, n'est pas d'importance, et qu'il faut se concentrer sur les choses importantes. Ça signifie simplement qu'ils comprennent qu'ils ont une vocation qu'ils ont reçue du Seigneur, celle d'annoncer la parole en particulier, et qu'ils doivent se concentrer là-dessus et déléguer à d'autres les autres tâches. Il est remarquable de voir comme les apôtres ici laissent leur ego dans leur poche, acceptent de prendre les murmures non comme des attaques personnelles contre eux, mais comme le signe qu'il y a une carence, une difficulté dans l'Église qu'il faut essayer de gérer, à laquelle il faut trouver une solution. Ils ont la sagesse de lâcher du lest, de discerner leur vocation propre, de proposer des changements, c'est ce qu'ils vont faire, proposer des changements à l'Église pour mieux adapter la communauté, l'organisation de la communauté aux besoins réels de l'Église. Humilité, recul, discernement, initiative, une vraie leçon que donnent les 12 ici pour les responsables, pour de tous les temps, pour les responsables de l'Église. Si nous sommes responsables de l'Église, nous avons sans doute un exemple à prendre de la part des apôtres ici. Et aussi, si je vous le dis, c'est aussi pour vous inviter, chacun, chacune, à prier pour vos responsables, à demander au Seigneur de leur accorder cette humilité, ce recul, ce discernement, cette capacité d'initiative et de sagesse. Les apôtres, ici, dans ces textes, dans cet épisode, exercent donc une autorité, celle que le Seigneur leur a déléguée, mais avec une profonde humilité. Il fait qu'ils ne s'accrochent pas à une situation de pouvoir, en quelque sorte, qui était la leur, mais qu'ils acceptent de lâcher du lest, de déléguer certaines parties de ce qu'ils faisaient, pour le bien de l'Église, pour le bien de la communauté. Mais vous remarquerez que dans cet épisode, les apôtres ne sont pas les seuls à gérer le problème. C'est pas eux qui disent, ben voilà, on va faire ça, on va faire comme ça, puis les choses vont tout seules. Les apôtres vont impliquer l'ensemble de l'Église dans la prise de décision pour la gestion de ce problème. Tout le monde, toute l'Église est partie prenante. Si on regarde bien la façon dont les choses se passent, on se rend compte que le problème n'est pas résolu simplement par ce que décident les apôtres, parce qu'en réalité, ce que font les apôtres, c'est simplement de convoquer une assemblée générale extraordinaire, pour parler en termes d'aujourd'hui. Ils rassemblent l'Église et ils rappellent ce diagnostic qu'ils ont posé. Voilà, on doit se concentrer sur l'annonce de la parole et puis il faut trouver d'autres personnes pour servir aux tables. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à l'Église, eh bien choisissez. Vous choisissez. Ils disent pas, nous avons choisi 7 personnes qui vont servir aux tables. Non, ils disent à l'Église, choisissez en votre sein 7 personnes pour servir aux tables. Et cela, l'attitude des apôtres traduit la perspective biblique de l'Église. L'Église n'est pas faite par ses responsables, ni par ses ministres, ceux qui exercent un ministère. L'Église, d'un point de vue biblique, c'est vous et moi. L'Église, par définition, c'est l'ensemble des croyants. C'est l'ensemble de ses membres qui forment l'Église. Et c'est l'ensemble de l'Église qui est concerné, et donc l'ensemble de l'Église qui est appelé à être partie prenante. Dans cet épisode, l'Église est partie prenante pour 2 choses. Tout d'abord, ils donnent leur accord sur la démarche proposée par les apôtres. Cela plut à toute la multitude. Et ensuite, ce sont eux qui choisissent en leur sein 7 personnes pour ce service aux tables. La communauté, dans l'ensemble, dans son ensemble, se sent concernée par le problème et par la façon de le résoudre. Ils sont réactifs et ils sont capables de discernement. Parce que finalement, c'est bien joli de se contenter de belles affirmations théologiques pour dire l'Église, c'est l'ensemble des croyants. On va dire même l'Église locale, c'est l'ensemble de ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ, et c'est ensemble que toutes les décisions se prennent. L'Église, c'est nous, c'est vous, c'est moi. C'est bien de dire ça, mais comment est-ce que ça se traduit concrètement? Comment est-ce que concrètement on manifeste cette réalité théologique que nous pouvons professer? Les apôtres montrent la voie ici, en impliquant dans la prise de décision l'ensemble de l'Église. Et moi je vois dans ce récit une vraie interpellation pour nous aujourd'hui encore. Comment est-ce que nous vivons ensemble le discernement collectif? Comment est-ce que nous vivons ensemble les prises de décision communautaires? Ou lorsque nous orientons notre vie d'Église, c'est l'ensemble de l'Église qui donne son accord et qui discerne et qui travaille cette vision. Dans quelle mesure les responsables de l'Église sont-ils suffisamment attentifs à la capacité de discernement de l'Église? Et dans quelle mesure ne se contente-t-on pas du côté des membres de l'Église parfois de suivre le mouvement, de se dédouaner un peu sur les responsables? Oh, ça c'est le boulot du pasteur. Ça, c'est le boulot du conseil. Et nous, on suit. Et quand ça ne nous plaît pas, on se plaint. Ou alors on dit que c'est mieux ailleurs. Les apôtres, ici, veulent impliquer la communauté dans la gestion de ce problème qui est apparu. C'est comme si les apôtres leur disaient « La balle est dans votre camp. » Ok, on a vu qu'il y avait un problème. Ok, on a vu qu'il faut réorganiser les choses, qu'il faut trouver des personnes qui vont pouvoir s'impliquer dans tel service plus particulier. Ok, ça on l'a compris, on l'a discerné. Maintenant c'est à vous. À vous de répondre à ce besoin. À vous de vous impliquer dans la bonne marche de la communauté. C'est pas nous qui allons faire tout le boulot. Et je crois qu'on peut y voir une vraie interpellation sur une autre façon concrète de vivre l'Église. Ne se contentons pas de belles affirmations bibliques et théologiques, interrogeons notre vécu, notre façon de vivre. Est-ce que nous sentons chacun, chacune, concernés par la vie de notre Église, par son avenir, par sa vision, par ses projets? Est-ce que nous nous impliquons d'une manière ou d'une autre dans ce processus de discernement, de réflexion, dans la prière, dans les suggestions, dans la réflexion? Ou est-ce que nous nous contentons de suivre, de déléguer cette responsabilité à d'autres pour ne pas prendre nous-mêmes part à la réflexion, au cheminement? Chacun doit y mettre du sien pour que l'Église continue sa route. C'est une leçon. Une des leçons de cet épisode. Et dans le chacun, il y a les apôtres, il y a l'Église, et puis il y a dans notre récit, il y a ces fameux 7 personnes qui finalement sont choisies. Alors selon les critères que les apôtres fixent, déterminent, les personnes de qui on rend un bon témoignage, remplies d'esprit et de sagesse. Et pourquoi faut-il des personnes remplies d'esprit et de sagesse pour servir aux tables? Ça peut paraître étonnant. Des gens de qui on rend bon témoignage, remplis d'esprit, de sagesse, des gens très spirituels, consacrés au Seigneur. Pourquoi? Pour servir aux tables. Alors parfois certains disent, oui bon, mais derrière cette expression « servir aux tables », il faut comprendre quelque chose de plus large, il y a quand même quelque chose de spirituel là derrière, et c'est plus vaste que simplement « service aux tables », et puis on essaye de dire, bah oui, quand même, c'est des gens qui devaient être qualifiés spirituellement, donc c'est pas simplement pour servir aux tables, il faut comprendre « servir aux tables » dans un sens un peu différent. Mais en disant ça, est-ce qu'on ne comprend pas le problème à l'envers? Est-ce qu'il ne faut pas voir plutôt dans les critères élevés, entre guillemets, que les apôtres fixent pour une tâche pratique, une façon de souligner que toute tâche dans l'Église, même les plus pratiques, même les plus terre-à-terre, sont des services spirituels. Tous, même servir aux tables. Jésus n'a-t-il pas lavé les pieds de ses disciples en leur disant de faire de même, montrant l'exemple de celui qui s'abaisse, qui se rend serviteur? Y a-t-il quelque chose de plus bassement humble et pratique que de laver les pieds de quelqu'un? Vous faites de même, Jésus a dit. Tout service, toute tâche dans l'Église, aussi terre à terre soit-elle, est un service spirituel. Et ce qui signifie aussi, du coup, qu'il ne suffit pas simplement d'être de bonne volonté ou même d'avoir des capacités pour exercer un ministère dans l'Église. Mais il faut aussi discerner la portée spirituelle de tout service dans l'Église, aussi concret, aussi pratique soit-il. Donc c'est à la fois une façon de mettre en valeur tout service dans l'Église, mais aussi une façon de souligner l'importance de nos motivations dans le service. L'importance de chaque service comme quelque chose de spirituel implique aussi que nous y mettions notre cœur entier comme un service rendu à Dieu et à notre prochain. Surtout que, ici, les sept qui nous sont présentés auraient pu peut-être prétendre à plus. Parmi les sept, il y en a deux dont on reparle plus tard dans le livre des Actes, et deux qui, un peu plus tard, montreront des capacités d'orateur, d'enseignant, de témoin étonnant. Étienne, peu après, va nous faire un discours extraordinaire, évoquant l'ensemble de la révélation biblique, étant quelque chose de très percutant face aux chefs religieux juifs. C'était un vrai prédicateur, Étienne. Et Philippe, un peu plus tard, est appelé l'évangéliste, lui qui va être envoyé par le Seigneur à de multiples endroits pour y annoncer, y proclamer l'évangile et apporter du fruit, et avoir un témoignage qui porte du fruit. L'un était un prédicateur, l'autre était un évangéliste. Et comment est-ce qu'il commence le service dans l'Église? Par le service aux tables, humblement. Et il ne rechigne pas au service. Ils acceptent ce service pratique, concret, peut-être un peu terre à terre. Être plein de sagesse et d'esprit, comme nous sont décrits les sept choisis par l'Église, finalement, n'est-ce pas être profondément humble? La sagesse et l'Esprit Saint conduisent à l'humilité du service. Du service les uns des autres, du service du Seigneur, un service qui, dans l'Église, est toujours un service spirituel, qui a du prix aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi il y a ici, pour ce service pratique, des exigences qui sont fortes, parce que tout service a de la valeur aux yeux du Seigneur. Tout service dans l'Église compte et a une portée spirituelle. Nous pouvons nous en rappeler dans l'application qui peut être la nôtre, parfois peut-être on va dire dans l'ombre, parfois dans des petites choses concrètes, terre à terre, pratiques. Eh bien devant le Seigneur, cela compte comme un service spirituel. Dans les situations de crise, on apprend beaucoup. L'Église de Jérusalem, dans cet épisode, était dans une situation de crise, du moins potentielle. Les apôtres ont discerné que les choses auraient pu mal se terminer. S'ils n'avaient rien fait, les murmures auraient pu augmenter, enfler, peut-être diviser l'Église et faire exploser cette Église comme une cocotte minute qui exploserait. Mais l'Église de Jérusalem est ressortie plus forte de cette épreuve. Il suffit de lire la conclusion de cet épisode, le verset 7. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. La parole de Dieu continue à se répandre et porter du fruit, comme c'était le cas avant cet épisode. La croissance de l'Église se poursuit, comme c'était le cas avant cet épisode. Le chemin se poursuit, la route de l'Église continue, et même, en plus, on nous précise ici à la fin de ce texte qu'un grand nombre de prêtres juifs se convertissaient. L'impact du témoignage de l'Église a même grandi encore au sortir de cette épreuve. Alors si les temps de crise nous apprennent beaucoup, il n'y a pas besoin non plus forcément de passer par un temps de crise pour retenir des leçons. Et on peut aussi entendre et recevoir de l'expérience d'autres. Et c'est pour cette raison que ce texte, ce récit, nous est donné dans l'Écriture, pour qu'il nous serve d'exemple et de leçon dans notre façon aujourd'hui encore de vivre l'Église. Et je soulignerai encore ce qui me semble être la leçon première, principale de cet épisode, à savoir qu'il faut que chacun y mette du sien pour que l'Église continue sa route. Vous et moi, les responsables, toute la communauté, ceux qui sont appelés à un service particulier, que chacun y mette du sien pour que l'Église continue sa route. Et tous ont besoin, nous avons besoin, d'être remplis de sagesse et d'Esprit Saint, pour être capables de discernement ensemble, pour ne pas rechigner au service et accepter aussi les services humbles dans la communauté, pour rester simplement, en un mot, dans l'humilité qui convient dans l'Église du Seigneur. C'est de cette façon que le Seigneur veut travailler avec nous tous, à l'édification de son Église, à l'avènement de son royaume, pour qu'ensemble, si chacun y met du sien, son Église continue sa route. Amen.